Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble. On commence, comme à chaque fois, avec le journal, les titres de l'actualité, c'est maintenant. Les titres de ce mardi 2 septembre 2025, deux jours après les manifestations anti-immigration dans les rues australiennes, des annonces sont faites, les réactions pleuvent et les manifestants se font toujours entendre. Le gouvernement critiqué justement pour sa politique migratoire, mais pas que. Le ministre de la Santé est pointé du doigt pour son manque d'action concernant les personnes âgées. Sur la scène internationale, glissement de terrain au Soudan et tremblement de terre en Afghanistan font des milliers de morts. Les autorités respectives des pays appellent la communauté internationale à la rescousse. Et enfin, une première pour le rookie français Isaac Hadjar. Le pilote de 20 ans monte pour la première fois de sa carrière en F1 sur le podium. On en parle en fin de JT et plus d'actualités sportives à venir dans le journal des sports de Christophe Mallet. En Australie, des images qui font réagir. Ce week-end, des nationalistes ont défilé aux côtés de néo-nazis lors de rassemblements contre l'immigration. Une scène qui relance le débat sur la montée de l'extrême droite dans le pays. Le Premier ministre Anthony Albanese rappelle que la diversité est une force pour l'Australie. Mais du côté des Verts, on accuse les grands partis d'avoir nourri ce climat avec des années de discours négatifs sur les migrants. Et le sénateur écologiste David Shoebridge d'ajouter que le gouvernement n'est pas exempt de reproches, évoquant notamment un projet de loi récent qui permettrait de renvoyer des centaines d'anciens détenus vers Nauru.
It ignored those calls to not fuel hateful right-wing anti-immigration sentiment, and it joined with Peter Dutton to pass those hateful laws. And then when their ministers are given a chance in this place to respond to that criticism, they deflect, they dissemble, they defer, they avoid, they turn it into a parallel political attack. This government needs to take responsibility for what it has done.
Même critique à l'encontre du gouvernement de la part de la coalition pour le sénateur Matt Canavan. La politique fédérale alimente l'extrémisme. Il accuse le parti travailliste d'avoir ouvert, je cite, les vannes de l'immigration après le Covid-19 et pointe du doigt un vide politique qui aurait permis aux néo-nazis de s'exprimer ce week-end.
Ultimately, the government has to take responsibility here for not showing the leadership for the Australian people so that they don't get attracted to these kind of rallies and end up giving airtime to these type of extremists. The better thing to do here would be to give the Australian people confidence that they have a government that is taking their best interests in mind, that they are setting the population and immigration settings in this country for Australia, for the best interests of the Australian people who are here.
La première ministre du Victoria, Jacinta Allan, a dû interrompre tout à l'heure une conférence de presse dans laquelle justement elle condamnait les violences du week-end, puisqu'elle a été prise à partie par le néo-nazi Thomas Sewell. Alors Thomas Sewell, vous avez sûrement entendu son nom ce week-end justement, il a participé à l'attaque du camp Sovereignty, un lieu de rassemblement aborigène, après les marches anti-immigration de dimanche. On écoute l'extrait de la prise à partie de Jacinta Allan par Thomas Sewell.
Shouldn't we have the right to speak in our own country, you coward? Shouldn't we have the right to speak in our country, you coward? Have your goons attacked me? You're a coward. And we're going to take this country back from politicians like you. I never see anyone shake your hand. I had 500 people come up to me and shake my hand on the weekend, and there was 50,000 of us.
50 000 personnes selon Thomas Sewell, et à Melbourne, la police estime que la foule comptait moins de 5 000 personnes, soit plus de 10 fois moins. Juste avant d'être prise à partie, la première du Victoria avait juste eu le temps d'annoncer la création d'une task force contre la haine, chargée d'enquêter sur les violences du week-end et sur les causes plus profondes qui poussent certains vers la radicalisation d'extrême droite.
And that is why over the course of this week, alongside Victoria Police, I'll be convening the Anti-Hate Task Force to both look at the incidences over the weekend, but also understand too that this goes beyond just being a law and order issue. There is something deeper going on here, and it goes to that sense of security, and particularly people's sense of economic security, that is being exploited by a small number of people.
On reste en Australie et un autre sujet sur lequel le gouvernement fédéral semble sous pression. La raison, eh bien, la nécessité de débloquer davantage de forfaits de soins à domicile pour les personnes âgées afin de les aider à se nourrir, se laver ou entretenir leur logement. La semaine dernière, une enquête du Sénat a révélé que plus de 121 000 personnes attendent une évaluation pour ce type de soutien, tandis que la liste officielle des bénéficiaires approuvés dépasse déjà les 87 000. Le report de 83 000 nouveaux forfaits de juillet à novembre a agacé les élus, notamment la sénatrice écologiste Penny Alman-Payne, qui presse le ministre de la Santé, Mark Butler, d'agir.
Right now, there are over 200,000 older people in this country waiting for aged care. In a wealthy country like this, that is unacceptable. Every day that the government doesn't act on the home care wait list is a day that another person is denied the care that they desperately need. The government can do something about this. We heard on Friday that the sector is ready to go to take on more home care packages.
Et justement, réaction de Monsieur Butler.
We've been delivering additional packages pretty much every budget or budget update. We did it again in the budget update in December, just before Christmas. And we committed to a very big increase in packages to take effect when the new aged care system comes into operation. And that will now be on the 1st of November.
Un vote sur des amendements pour accélérer la mise à disposition des forfaits de soins à domicile pourrait avoir lieu dès aujourd'hui. Quatre fournisseurs de légumes frais pour Aldi sont accusés de manipulation des prix par l'autorité australienne de la concurrence et de la consommation, le gendarme des consommateurs. Les faits se seraient produits entre 2018 et 2024 en Nouvelle-Galles du Sud, dans le Victoria et dans le Queensland. Selon la présidente Gina Cass-Gottlieb, agir de concert plutôt que de se concurrencer pourrait faire grimper les prix et pénaliser donc les consommateurs. Les entreprises visées contestent les accusations. Trois conseils municipaux de Nouvelle-Galles du Sud vont tester le retrait des filets anti-requins sur certaines plages très fréquentées. Plus de 250 animaux ont été piégés dans ces filets la saison dernière, dont un tiers d'espèces menacées. La Nouvelle-Galles du Sud utilise ces filets depuis 2011 pour protéger les baigneurs. Mais la scientifique marine, la docteure Vanessa Pirota, rappelle que les filets ne sont pas toujours une solution pour prévenir les attaques.
But the reality is a shark net is kind of like a band-aid. Sharks can swim around it and then underneath it. So it's not a complete way of blocking sharks. And unfortunately, the reason why so many of people don't want them there is because they not only kill sharks, but they kill other animals like whales, dolphins, turtles, and a whole other host of marine life.
Dans l'actualité du monde, plus de 800 personnes sont décédées en Afghanistan après un puissant séisme de magnitude 6 dans l'est du pays. Le tremblement de terre a secoué la zone proche de la frontière pakistanaise dans la nuit de dimanche à lundi. Au moins 5 répliques, dont une de magnitude 5.2, ont suivi. Le bilan, toujours provisoire, fait également état de 2800 blessés. Le secrétaire général de l'ONU a exprimé ses condoléances alors que le gouvernement taliban appelle la communauté internationale à venir en aide aux victimes. Car avec des villages entiers détruits, eh bien, le bilan pourrait encore s'alourdir. On écoute un porte-parole du ministère taliban de la Santé, Sharafat Zamanamar.
Many injured people have been taken to health centers in Laghman, Nangarhar and Kunar provinces. The number of casualties is likely to increase because the situation is serious, as the rescue teams are in the area to save the victims of earthquake. So far, hundreds of casualties are reported. Therefore, we urgently call on humanitarian organizations to step in and provide immediate support so the residents of the affected areas can be protected from further tragedies. Humanitarian organizations are also urged to assist in preventing the spread of communicable diseases in the affected areas.
Catastrophe également au Soudan où plus de 1000 personnes sont mortes dans un glissement de terrain. Selon l'armée de libération du Soudan, le drame s'est produit dimanche après de fortes pluies détruisant un village dans les montagnes Mara, à l'ouest du pays, ne laissant qu'un seul survivant. Le chef du groupe Abdelawid Nour indique que les communautés touchées sont dans un besoin urgent d'aide. Ces catastrophes s'ajoutent aux inondations records qui ont déjà déplacé des centaines de milliers de personnes en Afrique de l'Ouest. En Europe, l'avion qui transportait la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, victime d'un brouillage GPS en Bulgarie. L'autorité bulgare des services de la circulation aérienne a confirmé l'incident, disant constater une augmentation notable des cas de brouillage GPS et récemment d'usurpation d'identité, je cite, depuis le début de la guerre en Ukraine. L'avion a atterri sans difficulté à l'aéroport de Plovdiv et selon les informations du Financial Times, le pilote y serait parvenu en utilisant une carte papier. Pour la Bulgarie, cela ne fait aucun doute que les Russes sont derrière la manœuvre, soupçon partagé par la porte-parole de la chef de l'exécutif européen, Ariana Podesta.
We can indeed confirm that there was GPS jamming, but the plane landed safely in Bulgaria. We have received information from the Bulgarian authorities that they suspect that this was due to blatant interference by Russia. We are, of course, aware and used to somehow to the threats and intimidations that are a regular component of Russia's hostile behavior.
Ursula von der Leyen effectue une tournée de 4 jours dans les pays membres de l'Union européenne bordant la Russie, le Bélarus ou la mer Noire. La Russie n'a pour l'heure pas commenté les accusations. La France accueillera jeudi prochain une réunion d'une trentaine de pays pour discuter de leur soutien à la sécurité de l'Ukraine dans l'éventualité d'un accord de paix avec la Russie. Selon le bureau du président Emmanuel Macron, la plupart des dirigeants participeront virtuellement, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra, lui, à Paris en personne. Le Yémen, entre deuil et vengeance, 12 cercueils et derrière eux des milliers de spectateurs. Hier, les Houthis enterraient en grande pompe les membres de leur gouvernement tués par une frappe israélienne et parmi eux, le Premier ministre Ahmad Galeb al-Rawi. Une fois la cérémonie religieuse terminée, l'enterrement a pris des allures de parade militaire pour le groupe rebelle qui contrôle, on le rappelle, la capitale et tout le nord-ouest du Yémen depuis 2014. Mohamed Mitfa, dirigeant par intérim du gouvernement Houthi, affirme que ces attaques renforceront la détermination du peuple yéménite.
Through this crime, the enemy wanted to pressure the Yemeni people into easing its position, but it will face stronger resistance on the military, political and popular fronts. The Yemeni people cannot be deceived, nor are they afraid. We do not fear martyrdom. In fact, we see it as greater than the finest pressure of life. It emerged from under the rubble, and I regret that I was not martyred.
Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, les Houthis ont lancé plusieurs drones et missiles en direction du territoire israélien. Ils multiplient également les attaques en mer Rouge contre des navires américains ou israéliens. Et s'ils affirment agir en solidarité avec la Palestine, eh bien les Houthis, on le rappelle, d'obédience chiite, sont surtout des alliés de premier ordre de la République islamique d'Iran qui, depuis 2014, soutient leur rébellion. Un mot de sport avec la Formule 1 ce week-end, c'était le Grand Prix des Pays-Bas. Une course marquée par la victoire, encore la 7e de cette saison, de l'Australien Oscar Piastri, que plus rien n'arrête en tête du championnat, 34 points d'avance sur son coéquipier chez McLaren, Lando Norris. Le Britannique a d'ailleurs été contraint à l'abandon à cause d'un souci mécanique à quelques tours de l'arrivée. Max Verstappen hérite donc de la 2e place. L'autre événement de ce Grand Prix, c'est le premier podium du rookie français Isaac Hadjar, parti 4e sur la ligne de départ, le pilote de 20 ans a résisté aux cadors qui le suivaient, Charles Leclerc et George Russell. C'est le premier podium en F1 de sa carrière. On l'écoute.
C'était intense avec toutes les relances safety car qu'il y avait. Ça voulait pas vraiment se terminer. Honnêtement, les derniers tours, je les ai sentis, que ce soit physiquement et émotionnellement. C'était vraiment compliqué de tenir. Mais quand je suis arrivé dans les 3 derniers tours, je me suis juste dit de profiter de ces tours. J'étais sous contrôle. Et voilà, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, ça a rechuté et ouais, que de la joie.
Voilà, le pilote français Isaac Hadjar suite au premier podium de sa carrière en F1, troisième au Grand Prix des Pays-Bas ce week-end, derrière Oscar Piastri et Max Verstappen. Pour plus d'actualités sportives, c'est dans un instant avec le journal des sports. Restez sur SBS French. D'abord, on fait un point sur la météo de ce mardi. Du soleil à Perth, il fait 21 degrés, 19 à Adélaïde, des averses à Melbourne comptaient 18 degrés, 17 à Hobart, il fait 16 degrés à Canberra, c'est nuageux, 20 degrés à Sydney, des averses à Brisbane, 23 degrés, des nuages à Cairns, 29 degrés, et enfin grand soleil à Darwin, comptait 34 degrés. Voilà, c'est la fin de ce journal, messieurs, dames, merci de l'avoir suivi, restez sur SBS French, tout de suite, c'est le journal des sports, il est signé Christophe Mallet.
Journal des sports, on débute avec du cyclisme, bien entendu la Vuelta, le Tour d'Espagne, et 9e étape, une étape remportée par Jonas Vingegaard, on l'écoute.
I felt super great today, and then on the last climb, I also felt really good, and then I said to my team that if they could speed up, and they did, and then I tried, and they did super well, so wow, that was amazing teamwork, and super happy that I could finish it off, and I couldn't do it without them.
Were you happy to find yourself alone with more than 10k to go?
Well, to be honest, maybe I didn't do my homework good enough, because I thought it was closer to the finish when I attacked, and I was a bit surprised when I saw the 10-kilometer banner, and but at that moment I had the gap and I had to keep going on it.
Jonas Vingegaard qui remporte la 9e et dernière étape de cette première semaine donc de la Vuelta, journée de repos hier, journée de repos bien méritée. Jonas Vingegaard qui revient à 37 secondes du leader de cette Vuelta, Thorstein Træen. Vingegaard doit être quand même tout à fait satisfait de sa performance. Pour l'instant, satisfait également de ne pas être en rouge pour cette journée de repos. Cela veut dire beaucoup moins de presse, beaucoup moins de médias, beaucoup moins d'attention sur le Danois. Mais il reste le super favori donc de cette Vuelta, de ce Tour d'Espagne. Troisième au classement général, c'est Joao Almeida. Quatrième est Top Peacock qui a fini deuxième de la 9e étape de la Vuelta. On l'écoute.
Cicconi and Jonas went, of course, it's always so difficult to follow, and Jonas has four teammates between you and him, and Trekker on the front, you know. But I thought, you know, Almeida is a perfect wheel to go on. I thought maybe we'd come back, but chapeau to him. I couldn't give him many turns. He was shouting at me, but he's like a tractor, you know, when we get on this flatter section. And then the last K when he went, obviously it was impressive. I could only just come round him at the finish, but I'm happy, to be honest.
What are the words from Joao Almeida with you?
Well, he said he told me to grow some balls, but if he rides a bit slower, I'll give him some more turns.
Tom Peacock, donc des mots plutôt assez durs hein, sur l'état donc de cette Vuelta. L'Australien Jaime Lay est 9e de cette étape. Un petit détour également par le Suisse Félix Gall, qui est 5e au général en cette journée de repos. On écoute le coureur de la Décathlon à G2R.
Well, I'm quite happy with today, and also nice to test the legs. It's quite interesting. Everyone at the start was like, oh, it's for sure, it's a breakaway today, and then in the end, it was the most important day so far of this Vuelta.
Now, how will you look back on the first week of La Vuelta?
I was really struggling the first few days. I mean, stage two was fine. I did good power, but it really it took me a few days to after the two and also again altitude camp to find a good rhythm. And now since a few days, I'm feeling good, and I'm quite happy with very happy with how it went so far.
Donc Félix Gall, le leader de la Décathlon AG2R sur cette Vuelta. On continue sur le cyclisme, cette fois on va parler de la Bretagne classique qui se courait sur le circuit de Plouay, un circuit mythique hein, pour les amoureux de vélo. Les amoureux de vélo en Bretagne très certainement connaissent ce circuit et donc victoire du Belge Arnaud Delis qui a donc dominé cette Bretagne classique. Le leader de la Lotto finit en 6h21 devant Émilien Janière du team Total Energy. Le troisième de cette Bretagne classique, c'est Olav Kusch. Rappelle que la Vuelta, c'est tous les soirs à l'antenne d'SBS Télévision avec des résumés sur notre plateforme d'SBS On Demand. On parle tennis maintenant. Fin de parcours pour Adrien Manarino. Il n'atteindra pas donc les quarts de finale. Adrien Manarino qui n'égalera pas donc son meilleur résultat dans un grand chelem, mais ressort plutôt positif de cette tournée américaine. Je cite, ça redonne du carburant dans le moteur. C'est ce qu'Adrien Manarino a dit malgré sa défaite. Et on parle de football maintenant. Et tout d'abord, la Ligue 1. Troisième journée ce week-end. Lens a battu Brest sur le score de 3-1. Lille bat Lorient sur le score de 7-1. Nantes bat Auxerre sur le score de 1-0. Le Paris Saint-Germain bat Toulouse sur le score de 6-3. Match nul entre Angers et Rennes 1-1. Monaco bat Strasbourg sur le score de 3-2. Le Havre bat Nice 3-1. Le Paris FC, belle victoire du Paris FC face au FC Metz sur le score de 3-2. Et Lyon, l'OL qui bat l'OM, donc Marseille 1-0. Au classement, le Paris Saint-Germain est déjà en tête de cette Ligue 1 avec 9 points. Ex-aequo avec Lyon, deuxième avec 9 points également. Troisième, c'est Lille avec 7 points. Quatrième, Monaco, 6 points. Lens est 5e avec 6 points. En bas de classement, Lorient est 16e avec 3 points. Brest est 17e avec 1 point. Et Metz est dernier, Lanterne Rouge, donc 18e de ce classement avec 0 points. Allez, un mot d'athlétisme pour conclure ce journal des sports. Les mondiaux d'athlétisme arrivent très très vite. Hein. Ce sera au Japon et surtout, ce sera une nouvelle fois sur SBS. Écoutons la réaction de Nina Kennedy après une grosse blessure. L'Australienne revient avec de belles ambitions à la perche pour ces mondiaux au Japon.
If I don't make the final, screw it, I tried. If I win the thing, I also tried really hard. So let's just do it.
So just to clarify for everyone, this will be your first competition.
When you say it out loud like that, yeah, it is. So I'm going to be doing my season opener at Worlds.
You've got a lot to defend in many ways, and you haven't been beaten for quite a while. So, and you are prepared to be vulnerable, and I think that shows a lot to everybody.
You gotta put yourself where your mouth is, and I am a really big believer in being vulnerable. I think that quality itself, vulnerability and curiosity and putting myself out there, that has gotten me to last year and Budapest and even the bronze medal in Eugene. No one really thought I could do that, but those attributes have definitely gotten to me where I have, and that is exactly the same this year. I need to put myself where my words are, so showing up, giving a crack.
Nina Kennedy, donc la championne du monde et championne olympique à la perche, qui tentera de défendre son titre donc au championnat du monde au Japon, qui seront, je vous le rappelle, sur SBS. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Dans les miens, oh, j'ai du mal à faire. Je t'aimerai.
C'était Oshi sur les ondes de Radio SBS avec sa chanson « Et même après, je t'aimerai ». Comme tous les mardis, on passe à notre chronique politique. Patricia Meunier nous parle aujourd'hui de l'expulsion de l'ambassadeur d'Iran d'Australie. La chronique politique, et on parle cette semaine de ce qui a été qualifié par nos confrères de The Age comme le cas le plus dangereux d'ingérence étrangère dans l'histoire moderne de l'Australie. En effet, la principale agence de contre-espionnage du pays accuse l'Iran d'être le commanditaire de deux attentats antisémites en 2024. Conséquence, Anthony Albanese a annoncé expulser l'ambassadeur d'Iran à Canberra et va également placer les gardiens de la révolution iranienne sur la liste des organisations terroristes. De son côté, Téhéran a démenti être à l'origine de ces attaques criminelles. Patricia Meunier.
La mesure est inédite. 4 diplomates iraniens, dont l'ambassadeur Ahmad Sadeghi, ont dû quitter l'Australie. L'annonce a été faite mardi 26 août par le Premier ministre australien Anthony Albanese. Il accuse le régime islamiste d'avoir commandité au moins 2 attaques antisémites dans le pays en 2024. L'une contre la synagogue Hadas Israël à Melbourne, l'autre contre le restaurant Lewis Continental Kitchen à Sydney. Anthony Albanese estime également que le gouvernement iranien a tenté de diviser les Australiens en incitant à l'antisémitisme. Il s'agit de la première expulsion d'un ambassadeur du pays depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Iran a tenté de dissimuler son implication, mais l'enquête de l'ASIO, l'Australian Security Intelligence Organization, a établi sa responsabilité. Le directeur général de l'ASIO, Mike Burgess, a précisé que les Iraniens expulsés n'étaient pas impliqués dans ces opérations. Selon lui, elles ont été dirigées par le corps des gardiens de la révolution islamique à travers une série d'intermédiaires à l'étranger qui ont donné des instructions à des acteurs en Australie. Mike Burgess explique que ces services ne font pas ces évaluations à la légère. On l'écoute.
Our painstaking investigation uncovered and unpicked the links between the alleged crimes and the commanders in Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, the IRGC. The IRGC used a complex web of proxies to hide its involvement. This is the sort of obfuscation and boundary blurring I warned about earlier this year. It's important to understand that ASIO is both a collector of intelligence and assessor of intelligence. Formal assessments such as this one are not done quickly or taken lightly. Our analysts carefully weigh and weight every piece of intelligence. In this case, their conclusions are clear.
À la suite de l'annonce du gouvernement, l'ambassadeur d'Iran en Australie, Ahmad Sadeghi, ainsi que 3 autres responsables ont donc été expulsés de l'île continent. Dans une interview exclusive accordée à SBS Persian au début 2024, l'ambassadeur iranien avait pourtant nié toute ingérence étrangère de l'Iran en Australie.
No, foreign interference from Iran here is not relevant, by no means, under no circumstances.
L'ambassadeur australien en Iran a aussi renoncé à sa fonction. La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que malgré cette situation, les liens entre les deux pays ne seront pas complètement rompus. On l'écoute.
We will continue to maintain some diplomatic lines to advance the interests of Australians. In relation to our embassy in Iran, Australia has had an embassy in Iran since 1968. And at that time, and since that time, it has never been an endorsement of the regime. It has been a channel to advocate for our interests and for our people. However, the government has now taken the step to withdraw our ambassador to Iran, and we have suspended the operations of our embassy in Iran for the safety of our officials and Australia's border security.
Pour rappel, le Corps des gardiens de la révolution islamique est une organisation paramilitaire iranienne créée après la révolution iranienne de 1979. Il est directement placé sous l'autorité du guide suprême iranien et joue un rôle central dans la défense de l'Iran, ses opérations à l'étranger et son influence régionale. Le Premier ministre a annoncé que le Corps des gardiens de la révolution islamique serait inscrit sur la liste des organisations terroristes. En Australie, les appels à cette inscription s'étaient intensifiés depuis la mort suspecte en détention de Mahsa Amini en Iran il y a plusieurs années. De son côté, la chef de l'opposition, Susan Lee, a déclaré au Parlement que la coalition soutenait pleinement la réponse du gouvernement dans cette affaire de politique extérieure.
C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi tu courais toujours en vain, ouais tu aimais gagner ton temps.
C'était Love and Tendresse de Eddie De Preto avec toujours des superbes chansons. Allez, on passe à une interview maintenant, rencontre avec le directeur artistique et chef d'orchestre de l'Australian World Orchestra. Il nous parle des prochains concerts de Gustav Mahler, les symphonies numéro 4 et 5 au Hammer Hall de Melbourne et à l'Opéra House de Sydney. Date et info, c'est tout de suite.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir d'avoir Alexander Brigger, qui est le directeur artistique et chef d'orchestre du Australian World Orchestra. Bonjour et bienvenue à nouveau sur SBS French.
Ah, bonjour et merci beaucoup.
parler des projets, des concerts à Melbourne et à Sydney. Ce sont les concerts de Gustav Mahler, la 4e et 5e symphonie. C'est une fusion des deux symphonies de Mahler pour la première fois, d'après ce que je comprends.
Oui, pour la première fois, c'est différent, n'est-ce pas? Et c'est un grand, grand projet, un grand concert. Mais vous savez, avec l'Australian World Orchestra, on fait toujours les projets qui sont très, très grands et différents et très intéressants. Et on a parlé ensemble, le musicien d'orchestre, et on a pensé vraiment, un concert comme ça, c'est vraiment nouveau et grand, grandiose, oui. Et pour nous, c'est très, très important, oui.
Et donc, vous êtes en pleine répétition. Est-ce que il y a beaucoup de défis pour fusionner ces deux symphonies?
Non, pas vraiment. C'est un grand concert, mais vraiment, c'est pas trop compliqué. Et pour le musicien, c'est difficile, ça c'est clair. Mais ils connaissent le deux symphonies très très bien. Ils ont le joué très souvent, et c'est pas trop compliqué. Le 5e symphonie, ça c'est difficile. Surtout pour les cordes, c'est très très difficile. C'est comme comment on dit ça. C'est des techniques. C'est très compliqué. C'est très vite. C'est oui, beaucoup de notes. Oui, et ça c'est compliqué. Mais c'est pas trop difficile pour nous.
Expliquez un petit peu les deux concerts. Les deux concerts auront lieu au Emma Hall de Melbourne le 3 septembre et au Sydney Opera House le 4 septembre. Parlez un petit peu de ces musiciens au sein du Australian World Orchestra.
Oui, je suis très très fier de nos musiciens. Ils jouent dans les orchestres comme par exemple le Berlin Philharmonic, Vienna Philharmonic, Gewandhaus, Konzertgebouw, Chicago Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra. Ils sont tous d'Australie. Et on est vraiment très, très fiers de ces musiciens. Et on joue ensemble pendant vraiment 4 jours. C'est tout. Et ils viennent en Australie. Surtout esprit pour ces concerts, et c'est vraiment un rêve avec cet orchestre. Il joue avec tout le cœur, et les musiciens sont vraiment le meilleur musicien du monde, je crois, dans ces orchestres. Et ensemble, c'est très très intéressant. Et le son et le son, c'est différent. C'est très très intéressant. Et comme je vous ai dit, il joue avec tout le cœur, et c'est un rêve vraiment.
Et quel est, disons, le message que vous avez pour encourager les jeunes pour venir assister au concert de Mahler?
Les jeunes spectateurs qui ne connaissent
pas vraiment la musique classique.
Oui, pour commencer, Mahler, c'est peut-être le mieux, n'est-ce pas? Cette musique, c'est une rêve, c'est vraiment, c'est spectaculaire, c'est fort, c'est vite, mais aussi c'est avec musique du cœur, oui. Et ouais, par exemple, j'ai 3 filles. Ouais. elles adorent cette musique, et je leur ai joué beaucoup de fois, et c'est un rêve pour eux aussi, ouais.
Alexander Brigger, parlez un petit peu du Australian World Orchestra. Je crois que vous l'avez fondé, vous l'avez créé il y a 15 ans.
15 ans, exactement, oui.
15 ans, oui.
Oui, dans le premier an, on a pensé à vraiment, c'était une fois, on fait ça une fois, mais c'était un grand, grand succès. Et l'orchestre, c'était incroyable, formidable. Et après ça, on a invité le chef d'orchestre Zubin Mehta, ouais, l'un des grands chefs du monde.
Et, qui est venu en Australie.
Oui, ouais, exactement. Il était venu en Australie. Il a dirigé cet orchestre et c'était un amour entre nous vraiment. Et il adore cet orchestre. Il a dit c'est l'un des 10 grands orchestres du monde. Ouais. Et après ça, il nous a invités en Inde. Ouais. C'était une grande pour nous, c'était une tournée vraiment très très spéciale. La première fois qu'un orchestre d'Australie est allé en Inde. Et après, on a invité le grand chef, Sir Simon Rattle. Et il était venu aussi. C'était aussi encore une fois entre nous quelque chose de très très spécial. Alors, l'orchestre pour nous en Australie, c'est très très connu maintenant, surtout avec les musiciens. Tous les musiciens en Australie veulent jouer dans cet orchestre, et c'est aussi pour le public. Maintenant, c'est très très connu, et les concerts sont vraiment différents. Ouais. Je peux pas l'expliquer, mais c'est quelque chose arrive dans les concerts et ça c'est vraiment différent. Comment on dit ça, électrique, ouais, vraiment électrique et très très spécial. Alors je voudrais, j'espère que tout le monde qui m'en entend maintenant,
quel est votre secret pour garder cette réputation mondiale de cet orchestre du Australian World Orchestra? Quel est votre secret?
Ah, c'est pas trop difficile. Vous savez, les musiciens sont incroyables et ils jouent parfaitement ensemble. Ils les adorent, ils les connaissent très très bien. On a étudié ensemble, oui. Ils ont joué dans l'orchestre jeune Australian Youth Orchestra ensemble. Ouais. Et maintenant, ils sont amis, oui. Alors, et une fois par an, il rejoint ensemble et c'est une fête. Oui, et
une fête pour une semaine.
Et pour une semaine, pour 4 jours. C'est ouais. Tout. Et vraiment, c'est très facile. Comment on dit ça? Il y a quelque chose entre le gens. Ils sont vraiment comme frères et sœurs. Ouais. Et c'est comme ça. Et ils adorent jouer ensemble. Ouais. Et ils donnent tout. Tout. Et ça, c'est formidable. Et ça, c'est différent. C'est différent. C'est pas comme un orchestre qui joue tous les jours avec les autres musiciens. Oui, il y a quelque chose de différent.
Et quant à vous-même, Alexander Brigger, vous avez, j'imagine, des concerts à venir, des projets à venir en 2025-2026?
Oui, absolument. Oui, on planifie ça en ce moment et on verra.
Eh bien, je vous remercie d'être intervenu sur SBS French à nouveau.
Beaucoup.
Et je rappelle que les concerts auront lieu donc au Emma Hall à Melbourne le 3 septembre et au Sydney Opera House le 4 septembre. Merci infiniment à vous et bonne continuation.
Merci beaucoup, Poutou.
Merci.
Merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour. Tout s'est passé silencieusement.
Sa voix si reconnaissable, des années de galère pour finalement percer, un succès tellement mérité. C'est Zaoud Sagazan avec son titre « Les Dormantes » issu de l'album « La Symphonie des Éclairs ». Savez-vous combien d'armes à feu circulent en Australie et qui les possède ? À titre personnel, je pensais qu'il y en avait beaucoup moins depuis le massacre de Port Arthur en Tasmanie il y a bientôt 30 ans. Eh bien non, on fait le point sur les armes à feu, état des lieux dans ce reportage signé SBS News. Deux policiers ont été abattus dans la petite ville rurale de Porepunka, dans l'état du Victoria. Un drame qui ravive les questions sur la détention et les licences d'armes à feu en Australie. Près de 30 ans après la tuerie de Port Arthur en Tasmanie, les experts constatent qu'il y a aujourd'hui 25% d'armes légales de plus enregistrées dans le pays et de plus en plus de voix s'inquiètent d'un affaiblissement progressif de la loi. Alors, à quoi ressemble la réglementation australienne sur les armes aujourd'hui ? État des lieux.
Australians are very, very proud of their gun laws, but there is a level of complacency in the community that everything's absolutely fine. There is a erosion of gun laws in Australia, and 97% of Australians don't actually shoot.
C'était Tim Quinn, le président de l'organisation Gun Control Australia. Il affirme que depuis le massacre de Port Arthur, les lois sur les armes se sont progressivement affaiblies en Australie.
We need to make sure that government and police and everybody who has some sort of jurisdiction over this are protecting that 97% of Australians and not giving in to the gun lobby.
Un constat partagé aussi par Stephen Bendel, coordinateur de l'Australian Gun Safety Alliance et conseiller principal de la fondation Alana et Madeline, créée en mémoire de deux des 35 victimes du massacre de Port Arthur en 96. Il dénonce un lobby des armes qui bloque depuis des décennies tout renforcement des lois.
We now have over 4 million registered firearms in Australia and we have a very aggressive gun lobby that is well-resourced, well-organized, very influential, and seeking to make more guns available for more people.
Alors, SBS News a contacté le groupe de lobby des armes, le Shooting Industry Foundation of Australia, pour cette enquête, mais malheureusement, aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat. Le contrôle des armes, il faut dire, est très compliqué en Australie. Chaque État a ses propres lois. Après le massacre de Port Arthur, chaque État, encouragé par le Premier ministre de l'époque, John Howard, a finalement adopté des réformes importantes. Et c'est ainsi qu'est né le National Firearms Agreement, accompagné d'un vaste programme de rachat d'armes. Mais la docteure Alice Grundy, co-auteure de plusieurs rapports sur le contrôle des armes pour l'Australian Institute, explique que beaucoup ignorent qu'il y a désormais plus d'armes en Australie qu'avant Port Arthur, environ une arme pour 7 personnes, même si les chiffres exacts restent difficiles à établir.
Our research found that most firearms are in metropolitan areas, which I think would surprise most people, especially because there's someone who lives in metropolitan Sydney who has over 380 licensed firearms.
Et d'ailleurs, Tim Quinn affirme connaître des habitants de la banlieue de Sydney qui posséderaient plus de 300 armes chez eux.
That's a problem because they become somewhere for a gun to be stolen from, and it puts more guns in the community, which means more potential for incidents from these people. These people aren't collectors as such.
Si l'on regarde en détail, l'Australie occidentale est le seul État à limiter le nombre d'armes qu'une personne peut acheter et c'est plafonné à 10. Samara McFedran, chercheuse à l'université Griffith, rappelle que malgré la hausse des licences et des armes légales depuis des décennies, eh bien les crimes liés aux armes ont, eux, diminué depuis les années 80 et restent aujourd'hui assez bas et stable. Alors, qui possède des armes et qui obtient une licence ? Eh bien, regardons de plus près. Chaque État délivre des permis juniors permettant à des enfants dès 12 ans de s'initier sous supervision à l'usage sûr d'une arme. C'est ce que révèle la police de Tasmanie. Pour les adultes, il faut fournir un motif légitime. Ça peut être le tir sportif, la chasse récréative, le contrôle des nuisibles, les activités agricoles ou encore la collection d'armes anciennes. Mais voilà, certains voient ces motifs comme facilement contournables et la Nouvelle-Galles du Sud est le seul État à exiger un test pour vérifier que les armes sont utilisées pour ces raisons susmentionnées. Mais un nouveau projet de loi soutenu par le gouvernement Minns propose d'ajouter la chasse de conservation au motif légitime, un scandale pour Stephen Bendel.
So-called conservation hunting bill that's been introduced by the Shooters Party into the New South Wales Parliament is a outrage, and it includes a whole range of things such as a right to hunt. They want to have a minister for hunting. They want a new hunting authority that will be a government-paid marketing agency for hunting.
Voilà, c'était Stephen Bendel, on le rappelle, de l'Australian Gun Safety Alliance. Pour la docteure Grundy, qu'on a déjà entendu aussi plus haut, une autre inquiétude vient des avancées technologiques dans la fabrication des armes à feu.
3D printed firearms are a major concern. The technology is relatively cheap. To get one of the more sophisticated 3D printers is a few thousand dollars. There are only two states in Australia where 3D firearm blueprints are illegal. That's New South Wales and Tasmania. And with a few extra little parts from the internet, it's relatively straightforward to produce a 3D printed gun. And what's equally as concerning is that it's very easy to destroy a 3D printed firearm.
Stephen Bendel explique que les défenseurs du contrôle des armes font tout leur possible pour faire face à ces enjeux.
The police all around Australia are very concerned about 3D and privately made firearms. They've established a national task force which briefed us and a few other public organisations about their concerns. And we are working with all Australian governments to try and disrupt the process.
Et enfin, le dernier sujet de préoccupation des défenseurs ne concerne pas que le nombre d'armes, mais aussi leur localisation. La docteure Grundy estime qu'une plus grande harmonisation entre les États aiderait à mieux gérer les armes et à lutter contre les vols ou la possession par des personnes non autorisées. Elle rappelle d'ailleurs qu'un registre national devait faire partie des réformes post-Port Arthur, mais voilà, il n'a toujours pas été mis en place.
Well, it's nearly 30 years later and we still don't have one. It was the Attorney General's department who was responsible for creating it and their timeline said that it would be launched by 2028. It's now with Home Affairs. We're concerned that that's still a few years away and all sorts of things can happen in those years.
Cette enquête a été réalisée par Elena Krishna Mursi. Merci de l'avoir écoutée. Traduite par Marianne Murat pour SBS en français.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Messieurs, dames, il est à 13h58 sur SBS French, c'est l'heure du rappel des titres. La première ministre du Victoria, Jacinta Allan, contrainte de stopper une conférence de presse dans laquelle elle dénonçait les violences des manifestations anti-immigration de dimanche à cause d'un leader néo-nazi présent ce week-end justement qui l'a prise à partie. Le gouvernement étatique mais aussi fédéral critiqué justement pour sa politique migratoire mais pas que. Le ministre de la Santé est pointé du doigt pour son manque d'action concernant les personnes âgées. L'opposition lui demande de débloquer davantage de forfaits de soins à domicile afin de les aider à se nourrir, se laver ou entretenir maintenir leur logement. Sur la scène internationale, glissements de terrain au Soudan et tremblements de terre en Afghanistan font des milliers de morts. Les autorités respectives des pays appellent la communauté internationale à la rescousse. Et enfin, une première pour le rookie français Isaac Hadjar. Le pilote de 20 ans monte pour la première fois de sa carrière en F1 sur le podium à la 3e place, derrière Max Verstappen 2e et Oscar Piastri, victorieux pour la 7e fois cette saison. Le pilote australien de McLaren confirme sa place en tête du championnat avec 34 points d'avance sur son coéquipier Lando Norris. C'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french ainsi que sur les plateformes de podcast. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est jeudi, même fréquence, même heure. Quant à moi, je vous souhaite de passer un merveilleux mardi après-midi. Bonne journée, messieurs, dames. Au revoir.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.